Une introduction brève d'abord sur ce que c'est que le Vedanta. Le Vedanta est en fait. Alors chacun des mots que je vais dire est important ici. Le Vedanta est une tradition d'enseignement. Une tradition d'enseignement. Qui dit tradition d'enseignement, pourquoi tradition d'enseignement? Veut dire elle a une méthode, elle a une démarche, dont le but est quoi? Dont le but est nous de nous inviter à explorer le réel et de découvrir certaines réalités. C'est une tradition qui est vivante, dans le sens où si on fait un rapprochement avec la philosophie grecque, on en parlait, est-ce qu'il y a une lignée d'enseignement qui perpétue encore les platoniciens ou les stoïciens à ce jour? Il y a pourtant des textes. Et on n'a pas une lignée d'enseignement comme on a sur le Vedanta, qui se perpétue depuis des milliers d'années et qui fait que cet enseignement vient à vous ici. Un enseignement que j'ai reçu de mon enseignant, qu'il a reçu lui-même alors qu'il était étudiant, de son propre enseignant, etc. etc. Bon. Enseignement pourrait véhiculer une notion de quelque chose qui est une imposition d'idées ou de concepts de croyances. Ici, on est dans une démarche qui est une démarche affranchie de tout préjugé ou d'a priori religieux, dogmatique. Et vous allez voir par la méthode qu'utilise le Vedanta en quoi cela est vrai. Et cette méthode est de se dire et de s'interroger sur la nature de l'individu, la nature de l'univers dans lequel se place cet individu, et de s'interroger aussi sur la cause de l'univers s'il y en a eu. Donc vous voyez, c'est des grandes questions. Et surtout, par un dialogue, quand on regarde les textes fondateurs de cette tradition d'enseignement, tous ces textes se présentent sous la forme d'un dialogue. Un dialogue entre un enseignant et des étudiants. Ça peut être aussi, celui qui tient le rôle de l'enseignant peut être le père qui parle à son fils, ou bien un mari qui parle à sa femme, ou bien des moines renonçants, des gens qui ont choisi d'être, de devenir des ermites dans la forêt, qui parlent à leur gourou, à leur teacher, à leur enseignant. D'accord? Mais ce qui est important ici est que tout se base sur un dialogue. Un dialogue qui invite les gens à examiner les notions qu'ils ont à propos d'eux-mêmes, à propos de l'univers et à propos de la cause de l'univers. Inviter les gens à examiner toutes les notions qu'on a au sujet de tout. Ambitieux. Alors, un changement de paradigme, pourquoi? Je dirais, cette connaissance de ces réalités, le but de la connaissance de ces réalités n'est pas la connaissance en elle-même. Mais c'est plus d'être en adéquation avec ce qui est. Si je ne suis pas en adéquation ou en harmonie avec ce qui est, comment est-ce que je peux vivre en tant qu'être humain? Et si mes conceptions au sujet de la réalité ne s'accordent pas avec ce qui est, parce que c'est ces conceptions de la réalité que j'ai déterminent mes poursuites, déterminent mes projets, déterminent toutes mes actions dans ce monde. Et le Vedanta dit, les notions que vous avez au sujet de la réalité, de l'individu, de l'univers et de sa cause, ne sont pas exactement en conformité avec la réalité de ce qui est. Il y a une certaine ignorance à ce sujet-là. Et il faut, elle nous invite, les Upanishads nous invitent à les examiner pour changer de paradigme. Okay. Donc, et l'intention des Upanishads, les Upanishads, c'est un des textes fondateurs du Vedanta. Ça fait partie des textes fondateurs du Vedanta. Ou les Védas, un corpus de textes anciens, écrits en sanskrit, d'origine indienne. À la fin de ces Védas, on a ce qu'on appelle des textes qui traitent de ce sujet dont je vous ai parlé, le Vedanta, et un des synonymes de Vedanta est Upanishad. D'accord ? Alors, la vision globale des Upanishads peut être résumée en une phrase. Tout ce qui est ici est un. Et tu es cela. Malgré la diversité et la multiplicité des phénomènes, des objets, des êtres qui nous entourent, tout ce qui est ici peut être réduit ou peut être vu en termes de réalité comme n'étant qu'une chose. Alors comment comprendre ça? Comment est-ce que je peux comprendre ça? De la même manière que si vous rendez visite à un bijoutier qui est spécialisé dans l'or, qui vend que des bijoux en or, vous allez avoir sur les étagères de ce bijoutier quoi? Qu'est-ce que vous allez voir? Qu'est-ce que vous allez compter? Qu'est-ce que vous allez compter? Vous allez voir des bagues en or. Vous allez voir des bracelets en or. Vous allez voir des colliers en or. Vous allez voir des une boucle d'oreille en or. Si vous mettez en face de vous tout l'inventaire et tout le stock qu'a le bijoutier, et si vous comptez, vous allez compter peut-être 1000 pièces, 2000 pièces, 10 000 pièces. D'accord. Mais en réalité, cette diversité et cette pluralité apparente, si vous changez de regard et vous regardez ces mêmes bijoux du point de vue de du matériau dont il est constitué, de la cause de ces bijoux, de la cause matérielle de ces bijoux, qu'est-ce que vous allez compter? Un. D'accord? Donc on n'est pas en train de dire cet univers avec cette pluralité et cette diversité est une illusion. Très important. Souvent, la philosophie indienne est associée à ce concept d'illusion. La réalité est une illusion et c'est une réalité qui est trompeuse. Et il faut s'évader de cette réalité et aller à la réelle réalité. Et ce qui conduit à un divorce entre, ou un fossé énorme qui est creusé et un déni entre la réalité empirique. Cette réalité où je suis en train de vous parler, où je suis en train, nous sommes en train d'échanger des choses, où il y a des relations, il y a des actions, et une soi-disant réalité absolue qui fonde tout cet univers qui n'est qu'un univers d'apparence. Donc on n'est pas dans cette problématique du tout ici. On n'est pas dans le déni ni dans l'affirmation que tout ça est une illusion. Les bijoux ont une réalité. Ces formes ont une certaine beauté. Ces formes ont aussi un prix et vont déclencher aussi une réaction chez votre époux ou chez votre épouse quand vous allez l'offrir. Vous ne pouvez pas dénier cet aspect de la réalité. Mais malgré cela, si vous enlevez l'or de tous ces bijoux, qu'est-ce qui reste? Enlevez dans votre pensée l'or de tous les bijoux. Que reste-t-il? Donc il y a aussi une autre vision qui est, qu'est-ce qui est fondateur en termes de réalité? Et c'est l'or qui est la cause ou le fondement de toute cette réalité empirique. Donc tout est un. Donc, ici on a une citation d'un des commentateurs de ces textes, qui s'appelle Shankara, et qui dit « Poursuis cette connaissance de l'un. » Et il rajoute aussi du soi. D'accord ? Alors on va voir ça, pourquoi est-ce qu'il rajoute le soi. Donc qui est enseigné par le Veda, je vous en ai parlé. Alors, pourquoi les Védas nous inviteraient-ils à tout ça? Quelle est leur motivation? Est-ce que c'est pour agrandir le nombre de fidèles et est-ce qu'ils sont lancés dans un programme de conversion? Non. Ceux qui sont intéressés par cette connaissance, ceux qui, a priori, s'interrogent et poursuivent quelque chose peut-être dont ils n'ont pas forcément connaissance, d'accord? Tout le monde est ici dans une certaine démarche de quête de sens, sans savoir toujours qu'est-ce qu'on cherche et quel est le problème fondamental, comment l'aborder. Donc on essaie par divers moyens de trouver une solution à un problème qui nous élude d'une certaine manière aussi, dont on n'a pas mis exactement, je dirais qu'on n'a pas identifié en tant que tel. On va l'identifier. Donc les Védas disent: si vous êtes intéressé par vous affranchir de ce sentiment de confusion, de doute et de manque, il y a quelque chose qui me manque. Malgré tout ce que je fais, toutes mes poursuites et tout ce que j'ai pu faire dans ma vie, et toutes les joies que j'ai pu éprouver et les peines, je sens de manière obscure, mais quelque chose qui est pressant en moi, qu'il y a quelque chose qui me manque, il y a quelque chose qui m'échappe. Et la vision des Védas, c'est de dire: tu n'es pas l'être limité que tu crois être, cet être qui est un individu insignifiant en face de l'immensité du monde, et qui essaie de grappiller d'ici et là des moments de joie et de satisfaction, qui sont par définition, qui ne sont pas durables. Tu n'es pas cet individu que tu crois être. Tu es cela, tu es cet un, et la réalité de tout l'univers. Donc vous voyez le changement complet de perspective que ça va induire. Pourquoi? Si je suis déjà ce que je recherche, si je suis déjà cette illimité ou cette plénitude que je ne cesse de rechercher, sans savoir ce que je recherchais, maintenant quelle est la distance qui me sépare de cette réalité de moi-même, de cet un qui est cette plénitude, qui est le fondement de tout l'univers? Quelle est cette distance? Quelle est la distance? Quelle est la distance entre le bijou et l'or? Quelle est la distance entre le bijou et l'or? Est-ce qu'il y a une distance physique? Est-ce qu'il faut que le bijou, pour être or, pour devenir l'or, est-ce qu'il faut qu'il fasse quoi que ce soit? Est-ce qu'on est en termes d'action ici? Est-ce qu'on est en termes de création, de modification, de purification? Non. D'accord ? Il n'a jamais été séparé, le bijou n'a jamais été séparé à aucun moment de sa nature qui est or. La seule distance est quoi ? Cognitive. Terme de connaissance, de ce qui est. D'accord ? Donc poursuis cette connaissance de l'un qui n'est autre que toi, qui est enseigné par la Veda. Et donc à nouveau, la seule intention, c'est ceux qui sont intéressés par cet enseignement peuvent venir. Et les Védas vont lui dire: écoute, ok, bien, si ça t'intéresse, bien, moi je suis prêt à partager ce que j'ai à voir, mais qui peut changer de manière radicale et fondamentale ta vision des choses. telle une mère. Alors, ce qui est intéressant ici, donc, ce sujet ne doit pas être négligé. Bien évidemment, on n'est pas encore... Ici, on n'est pas dans, dans une mentalité de boîte à outils, d'accord ? Ou de conseil. Ce n'est pas une technique. On n'est pas dans l'ouverture de chakra ici. D'accord ? On n'est pas dans la purification de l'aura. On n'est pas dans l'alimentation macrobiotique et comment choisir son alimentation. Tous ces aspects, je plaisante. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas leur place. Les pratiques de yoga, tout cela a sa place. Mes poursuites de la sécurité et du plaisir, mes formations en management, en PNL, en coaching, etc. Tout ça a sa place. Mais une place qui doit être vue justement. Ce n'est pas en méditant pendant des heures que le sucre va découvrir sa nature qui est d'être sucré de manière naturelle. Si le sucre fait des postures inversées, d'arbres inversés, ce n'est pas ça qui va l'aider à découvrir sa nature. D'accord ? Mais par contre, la pratique du yoga va l'aider à l'ancrer dans son corps, à s'ancrer dans un corps, et à prendre cette distance aussi vis-à-vis de son corps. Et utiliser ce corps pour ce qu'il est, c'est un instrument pour moi d'interaction avec la vie, avec les autres êtres vivants. D'accord ?
Est-ce qu'on pourrait dire que le Vedanta, c'est ce qui donne l'intention à toutes ces techniques ?
Pas l'intention, je dirais que c'est une vision globale à partir de laquelle chaque chose trouve sa place. Et à la place qui leur revient. Alors, ce qui doit être connu peut être compris par une personne à l'esprit subtil. Oui, tu voulais dire quelque chose ?
Juste pour revenir sur le...
Oui.
Juste avant, est-ce qu'on pourrait dire dans ce cas-là, est-ce que le... ce n'est pas tant le soi que l'on place dans l'univers, dans l'un,
oui,
mais plutôt la compréhension du soi en tant qu'un et en tant qu'imbrication des autres soi pour former l'un ?
Oui. On peut dire ça comme ça. Je vais donner d'autres exemples pour illustrer ça. D'accord ? On va donner d'autres exemples. Mais ça peut être quelque chose de ce style-là. Alors, une personne subtile à l'esprit raffiné. On est tous ici, comme je l'ai dit, dans une certaine démarche, dans une certaine quête. Et a priori, il y a beaucoup de travail ici, parce que j'ai entendu au niveau des présentations, travail sur vous-même, sur votre corps, sur vos conceptions déjà de l'univers, de vous-même, qui a été fait. C'est ça l'esprit raffiné. Les gens qui viennent en général à cette tradition d'enseignement sont des gens qui ont déjà une certaine maturité. À un moment ou à un autre, les Védas disent tout le monde va avoir cette démarche. Et tout le monde est en processus en fait. Et de manière inévitable, par définition, un être humain, parce qu'il est conscient de lui-même et qui porte un jugement sur lui-même, et qui est ce jugement d'insuffisance, de se voir comme étant inacceptable, de se voir comme étant déficient, de se voir comme il y a quelque chose qui me manque, et va être porté à sans cesse essayer de résoudre cette tension qui est en lui. Ce sentiment de manque. Et à un moment ou à un autre, il va se rendre compte que ses poursuites habituelles, du plaisir, de la sécurité, sous toutes les formes qu'elles soient, de l'influence, du pouvoir, même des poursuites intellectuelles, accumuler des connaissances dans tellement de champs différents. Finalement, ne résout en rien ce problème fondamental. Et qui vienne cette conclusion, je suis un être limité. D'accord ? Donc, ce manque est identifié, quand il est identifié en tant que manque, parce que je suis pleinement conscient de moi-même, me poussera de manière naturelle vers certaines poursuites qui, à un moment ou à un autre, vont me dire « Eh, mais ce n'est pas ce que je cherche. entre ce que je veux réellement, qui est cette plénitude durable et ce contentement, et ce que je fais pour y parvenir, je vois l'absence de connexion. Je vois que toutes ces poursuites me procurent un certain plaisir ou une joie, mais qui restent temporaires. Donc la solution n'est pas dans ce cadre-là. La solution est dans un changement de vision ou de conclusion au sujet de moi-même et de l'univers. Je ne suis pas cet être limité que je crois être, mais je suis cet un qui est déjà accompli ici et maintenant. D'accord, cet infini. Donc vous voyez ce basculement. Donc nécessairement, toute personne va être conduite à un moment ou un autre de cette existence à s'interroger sur ses fondamentaux-là et sur la nature du problème fondamental, sur la condition humaine et comment s'en affranchir. Parce qu'on ne peut pas accepter, l'être humain ne peut pas accepter cette conclusion qui est tu es sujet à la finitude. Tu es un être limité dans le temps et l'espace et qui a une existence de 80-90 ans. C'est inacceptable. Même si toute la philosophie occidentale et grecque est basée sur ce postulat. La philosophie et la psychologie occidentale tiennent pour une vérité première le fait que l'individu est un être limité. Donc vous voyez ce changement de paradigme que je veux vous faire sentir ici. Ici, on est en train de voir comment bousculer tout ça. Alors, prochaine. Alors c'est un vaste programme. En 2 jours, vous aurez quelques notions fondamentales de cette approche, de cette tradition d'enseignement. D'accord ? Ce qui me paraît important ici, c'est de vous faire découvrir sous un angle, cet angle, sur l'angle suivant, ces réalités que nous allons explorer ensemble. D'accord ? Donc, première réalité, tout ce qui est ici, alors je vous ai dit, tout ce qui est ici est un. Mais en plus de cette dimension qui est ce qui est le fondement de cette multiplicité est un, il y a une autre réalité qui est aussi importante et qui est à ce niveau même, au niveau de cette réalité empirique, qui est que tout ce qui est ici est interconnecté et interrelié. Donc cela, ce sujet-là, on va le voir ce matin. D'accord ? Réalité 1. La réalité 2 aussi, on va commencer à la voir ce matin, et surtout en début d'après-midi, qui est qu'au sein de tous ces ordres qui sont présents dans l'univers, cet ordre biologique, cet ordre physique, qui relie tous les événements physiques entre eux, qui relie tous les êtres vivants entre eux par des lois. Il y a aussi un autre ordre qui est un ordre du domaine des valeurs éthiques universelles, ce qu'on appelle le dharma. Donc on va voir quelles sont les conséquences de la découverte de cet ordre et quelle est la nature de cet ordre. On finira cet après-midi par une réalité qui est vraiment essentielle, qui est le résultat des actions est gouverné par des lois de cause à effet. On verra, je vous laisse la surprise de ça pour cet après-midi. Alors, on abordera ici ce qu'on appelle le karma. D'accord ? Cet ordre du karma qui fait que votre présence ici, comme quelqu'un le disait, qu'est-ce qu'il disait que c'est pas un hasard ? Qu'est-ce qu'il disait ça ?
Hein ?
D'accord ? Qu'est-ce qui a fait que chacun de nous, à cet instant présent, va partager ce moment. Qu'est-ce qui a conduit Angelo? Alors, qu'est-ce qui m'a conduit, moi, à rencontrer Laurent? D'accord. Qu'est-ce qui a fait ça? Via Xavier. Qu'est-ce qui a fait que j'ai rencontré Xavier il y a 7 ans à Bombay, alors qu'il travaillait à l'ambassade de France là-bas? Qu'est-ce qui a fait que j'ai quitté Paris, où j'habitais, j'ai étudié, j'ai travaillé quelques années, pour aller en Inde? Qu'est-ce qui a fait que je suis arrivé à Paris en ayant quitté Madagascar? Alors, ces questions sur moi. Après, on peut remonter au niveau de mes parents, de mes grands-parents. Je suis la troisième génération, le père de mon grand-père a quitté l'Inde pour venir via la côte est de l'Afrique pour pour s'établir à Madagascar, où je suis né. Pourquoi est-ce qu'ils ont bougé? Et le fait que moi je sois revenu à cette tradition, moi j'ai une dette énorme vis-à-vis de mes ancêtres. Ce que je suis actuellement dépend entièrement de ce qu'ils ont fait de moi. D'accord? Et de tout leur parcours, qui lui-même est relié à tant de causes, vous voyez, et tant d'événements. Donc là j'ai exploré la branche Souria. On pourrait faire de même avec Xavier, que j'ai rencontré. De même avec Laurent. Et de même avec chacun de vous. Alors voyez cet ordre du karma qui relie toutes les actions des uns et des autres pour aboutir à des situations dont chacun de nous va se trouver, dans lesquelles chacun de nous on va se trouver. C'est extraordinaire, c'est quelque chose d'inimaginable par son immensité. Et c'est quelque chose qui est là. Réalité numéro 4 et 5, on va voir ça demain, toute la journée. On a commencé à aborder la dimension plus profonde et plus centrée de nous-mêmes avec ces pratiques méditatives. La réalité 4, comment devenir plus objectif. Nous sommes tous empreints d'une certaine subjectivité, nous sommes tous sujets à des anxiétés, des peurs, de la frustration, de la tristesse, etc., etc., qui colore notre appréciation de nos interactions avec les gens, notre évaluation des situations dans lesquelles nous nous trouvons. Donc, est-ce qu'il y a une manière, dans le cadre du Vedanta, de pouvoir réduire cette subjectivité qu'on a? D'accord. Tout est interconnecté. Donc, j'en ai déjà... parler en abordant cette dimension, je dirais, du karma. D'accord. Vous voyez, comme nous sommes pas des individus isolés et séparés et aliénés d'un tout. Et ce tout est articulé, relie chacune de ses parties au travers d'un ordre, un grand ordre. Et ce grand ordre, une intelligence infinie qui va se décliner sous la forme de plusieurs sous-ordres. D'accord ? Il y a un ordre qui va être... Je ne voudrais pas que vous lisiez ça. Il y a un ordre qui est un ordre physique. De la même manière que je vous ai parlé de cette interconnexion que nous avons tous entre nous au niveau du karma, il y a aussi, au niveau physique, nous sommes reliés de manière extrêmement intime à cet univers par des lois physiques. Le fait que je puisse tenir debout ici et que mon corps ait cette grandeur et cette forme, et qu'un arbre puisse grandir à cette hauteur uniquement, que les contours d'une pétale d'une fleur aient cette forme, et qu'une galaxie puisse être aussi de cette forme, ou avec cette variété de formes. Tout ça dépend de lois physiques qui régissent du macro, c'est-à-dire au niveau de ces trous noirs, de ces galaxies, de ces constellations, et aussi bien au niveau du micro, au niveau le plus infime de la matière. Il y a des lois à chacun de ces niveaux, des lois physiques. Et ces lois physiques relient tous les objets et les phénomènes physiques de cet univers. Ordre physique. De la même manière, on pourrait parler de l'ordre biologique. Qu'est-ce qui fait que la vie est ce qu'elle est? Et qu'elle est prise toutes ces formes différentes au cours de l'évolution de la vie. C'est extraordinaire. Et que cela ait abouti à quoi? À cet être humain qui est capable de s'interroger sur le sens à donner à sa vie, qui est capable de ce jugement autoréflexif sur lui-même, qui est capable d'anticiper ses actions, qui est capable d'étudier son cerveau et de dire « mais qu'est-ce que c'est que ce cerveau ?» C'est extraordinaire. Quand on pense à cet ordre biologique qui nous a mené au cours des milliards d'années, 3,5 milliards d'années, à aboutir à cet être humain que nous sommes, toute l'intelligence qu'il a fallu à cet univers, à cette nature, entre guillemets, pour aboutir à nous, nous sommes le résultat d'un processus qui a nécessité tant de connaissances et tant d'interconnexions. Et rien que pour la vision, le fait que je puisse être capable de voir, c'est des tâtonnements en termes d'expérimentation depuis 50 millions d'années. La vision, le fait de voir, c'est pas quelque chose d'ordinaire. La vision oculaire, je parle. Les bactéries n'ont pas de capacité de voir. Mais nous avons un organe qui est extrêmement développé et qui a 50 millions d'années de tâtonnement et le résultat de 50 millions d'années de tâtonnement. D'accord. Quand je dis nous faisons partie d'un tout et tout est interrelié au travers différents ordres, c'est de ça qu'on parle. D'accord. On n'est pas en train de parler de quelque chose d'ésotérique ou de distant de nous. C'est quelque chose que, quand je vous le montre, vous pouvez l'apprécier et le voir. Alors, cette dimension qui est celle de l'interdépendance et de l'interconnexion de toutes choses, au travers de tous ces ordres à différents niveaux, a des implications. Ces implications sont les suivantes. Ces conséquences sont les suivantes. On a l'impression qu'un être humain devient insignifiant au regard de cet ordre, et de l'immensité de cet ordre, et de la complexité de cet ordre. Mais en dépit de cela, nous avons une place. Nous y avons une place. Et cette notion est celle du Swadharma ou du Swakarma. Qu'est-ce que nous pouvons, quelle est notre place dans l'univers et de quelle manière nous allons inscrire notre contribution à cet univers qui nous a fourni depuis toutes ces années et depuis des générations et des milliers d'années et qui a abouti à faire de nous ce que nous sommes. Qu'est-ce que nous pouvons rendre à cet univers, de quelle manière nous pouvons contribuer à cet univers? Vous voyez que ça passe nécessairement par une réflexion sur ma place et mes compétences uniques et mes talents particuliers et la manière dont je peux les utiliser. Les talents particuliers d'Angelo, des miens, de Nima, de Tatiana sont différents. Il n'y a pas de jugement de valeur ici. Chacun a développé avec son histoire une certaine zone de compétence unique, une combinaison unique de qualités que nous devons nécessairement exploiter pour apporter notre contribution à un monde qui nous a nourri et qui nous a donné tant depuis tant d'années.
Et c'est ce qu'on développe ou ce qui nous est donné à la base ?
Les deux. Parce que ces talents peuvent être développés par l'effort personnel. D'accord ? Mais il y avait en germe un certain potentiel. Certaines grandes orientations étaient là. Mais il nous a appartenu, nous, de faire des efforts pour faire des formations de coaching, pour nous diriger vers des pratiques de yoga, pour aller vers du tai chi, etc. On a oublié de lui demander de se présenter aussi. Désolé Régine. On va profiter de la petite pause qu'on va faire dans un instant pour vous demander de vous présenter. Et donc, ce qui est important ici de voir, c'est que cette sphère d'influence qu'on peut avoir et la manière dont on peut contribuer va évoluer avec le temps. C'est pas fixe. Oui ou non? D'accord. Donc définir notre sphère d'influence. Pour pouvoir être des contributeurs, des donneurs, et pas seulement des preneurs et des consommateurs. C'est ça les conséquences de cette interconnexion. Alors, ce que je voudrais maintenant... Quelle heure est-il ?
Il est 11h04.
c'est qu'on voit ça de manière, donc ces concepts de manière un peu plus pratique, avec des exemples. Alors je voudrais qu'on... Il est 11h
11h04.
11h04. Ce que je voudrais qu'on voit d'abord, le premier exemple, c'est de quelle manière cette réalité qui est de l'interconnexion va nous amener à éveiller notre sensibilité à une autre perspective que la nôtre, et d'évaluer chacune de nos décisions à l'aune de ce changement de perspective. Évaluer et déterminer quelles sont les différentes parties prenantes dans une situation où nous nous trouvons. D'accord ? Il y a toujours différentes parties prenantes. Et nos actions ont un impact sur à différents niveaux. Donc, au lieu de se cantonner à un rôle où on va uniquement se centrer sur ce que nous, en tant que personne, on peut apporter ou bénéficier de cette situation, là, l'invitation est de dire quelles sont les dynamiques ou quelles sont les perspectives des autres parties pour pouvoir intégrer et assimiler cette notion d'interconnexion. Alors, je propose pour ça de faire quelque chose qui est très simple. Okay. Là, on est dans la réalité. Donc, vous êtes directeur d'achat. Quelqu'un veut lire? Régine?
Ouais.
Allez.
Je suis directeur d'achat dans une société qui possède des critères environnementaux dans la sélection de ses fournisseurs. Les critères environnementaux ont un poids de 10%, tandis que le prix compte pour 40%. Vous êtes impliqué dans un appel d'offres où l'option la plus économique est la plus destructrice en termes d'environnement. Cela a été difficile de faire accepter par le management d'inclure des critères environnementaux dans la sélection des fournisseurs. Que faites-vous ? A. Choisir le meilleur fournisseur sur la base des critères que vous avez. Quand les prix des produits plus verts baisseront, ils seront sélectionnés. B. Sélectionner le fournisseur avec le prix le plus compétitif. Votre bonus est lié aux économies de coûts que vous réalisez. C. Faire du lobby auprès du management pour augmenter le poids des critères environnementaux en utilisant l'appel d'offres en cours comme exemple de son inefficacité avec un poids de 10%. D. Identifier les catégories de fournisseurs qui posent le plus grand risque en termes d'environnement et obtenir un accord pour que tous les fournisseurs remplissent des critères environnementaux minimums.
Alors, ce que je voudrais qu'on fasse ici, d'accord ? Vous pouvez le relire tranquillement ensuite. Ce que je voudrais qu'on fasse ensemble. Vous voyez qu'il n'y a pas... L'idée ici, ce n'est pas de dire, voilà, la meilleure solution et la bonne solution, c'est A ou B ou C ou D, d'accord ? C'est pas ça l'idée ici. Moi, ce à quoi je voudrais que vous réfléchissiez, est de voir si je prends la décision A. Donc, un des groupes, on est combien ?
2, 3. 10, 11, ça dépend de mon rêve.
Oui, si on t'inclut dedans.
Qui n'est pas dedans.
Alors,
les autres peuvent être inclus, oui.
Voilà, 10.
10. Bon, on va faire. On va faire 4 groupes. Alors, je voudrais que chacun, donc groupe 1.
Quel groupe de 2,5 alors.
Voilà, de 2,5.
C'est vrai parce qu'on est
là. On va faire 3 groupes, allez.
Un groupe de 3.
3 groupes de 3,3. Donc, premier groupe, vous allez réfléchir à l'impact donc, si vous, de l'option 1. Vous allez identifier les différentes parties prenantes d'abord. Ok. Et identifier l'impact de cette décision si c'est celle qui va être choisie. Donc pareil pour donc les 3 suivants sur l'option B. En fait, on n'aura que
3 options.
C'est pas grave. Ok.
On fait
tous les deux. Voilà. 1, 2. Ok. Donc, je vous laisse, ça va pas même longtemps, je vous laisse 5 minutes. Vous inquiétez pas, on va s'aider mutuellement. Et
5-10 minutes.
5-10 minutes, vous pouvez aller dans le jardin, vous pouvez aller où vous voulez.
Dans le jardin, il vient de bien
pleuvoir. Il vient de bien pleuvoir,
mais bon. Je suis sûr de toute façon.
Ok, plus petit. Voilà, c'est ça. Je respire.